Il est 17h, c'est le moment de vos informations locales et régionales avec Taliane Roy. Taliane, on revient sur cette nouvelle et ce projet de la MRC d'agrandir son siège social à Gracefield. Ça a provoqué beaucoup de réactions et il y a la préfète Chantal Lamarche qui tenait à préciser quelques trucs.
La préfète de la MRC Vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche, souligne entre autres que ce projet n'a pas pour but de centraliser les services de la MRC et que le projet ira de l'avant seulement si la subvention est accordée. Francis Letourneau s'est entretenu avec la préfète de Lamarche et voici son reportage.
À la suite des réactions occasionnées par un article paru hier concernant le projet d'agrandissement du siège social de la MRC à Gracefield, la préfète de la MRC Vallée de la Gatineau, Chantal Lamarche, souhaite apporter des précisions concernant certaines informations. Madame Lamarche souligne avant tout qu'il ne s'agit pas d'un projet qui vise à centraliser les services de la MRC à Gracefield, mais bien d'agrandir le bâtiment du siège social. La préfète Lamarche affirme que les bureaux qui sont actuellement situés au point de service de Maniwaki déménageront du côté de Gracefield, mais elle précise que les services continueront d'être donnés à la population.
Les services que la MRC donne vont être donnés partout sur le territoire, que ce soit à Maniwaki, à Aumont, à Denon. Présentement, on manque de locaux. C'est sûr qu'il y a des emplois qui vont être bougés parce que là, nos services sont tous séparés. C'est l'évaluation d'une place qui a besoin de travailler avec la gestion du territoire. Tout le monde est éparpillé. Il faut être productif, il faut être constructif.
La préfète de la MRC indique que ce projet ira de l'avant seulement si la subvention est accordée. La MRC paie 100 000 par année afin de louer le bâtiment où est situé le point de service de Maniwaki. Chantal Lamarche mentionne que tous les bureaux étaient situés à Gracefield avant 2015. Madame Lamarche explique que seulement le bâtiment de Gracefield était admissible afin de recevoir une subvention pour un tel projet.
Il n'y a personne qui a dit jamais qu'on n'aura pas un bureau à Maniwaki, qu'on ne donnera pas de service à Maniwaki. Pour entrer dans les critères, il faut que l'édifice t'appartienne. Puis Gracefield appartient à la MRC, Maniwaki s'est loué. Il faut que tu aies une MRC de 25 000 résidents et moins, on rentre dans les critères. Il faut que l'édifice fasse faire une inspection du bâtiment pour qu'il y ait des défauts dans l'édifice, étant donné qu'il est très âgé, l'édifice à Gracefield, elle a besoin d'amour. Donc, on répond à des critères.
Lors de la réunion du Conseil des maires du mois dernier, l'ensemble des maires de la MRC a voté pour procéder à une demande de subvention concernant ce projet. Cependant, lors de la réunion mensuelle qui a eu lieu hier soir, quatre maires et mairesses, soit de Maniwaki, Messine, Lau et Aumont, ont voté contre un point pour la confection des plans et devis du projet. Ce dernier point a tout de même été adopté par la majorité. À noter que les maires de Bouchette et de Gracefield n'ont pas participé au vote puisqu'ils étaient tous deux absents. C'était Francis Letourneau pour CHGA FM.
On parle maintenant de suicide des tours et de projets qui se réalisent peu à peu.
Suicide des tours est particulièrement démarqué cette année. L'organisme s'est impliqué dans plusieurs activités, notamment avec la ville de Maniwaki, et a entamé de gros projets qui verront jour au courant de l'année. La directrice de Suicide des Tours, Carole Saint-Amour, annonce fièrement qu'avec les fonds amassés lors du Poker Run des Hawks, le projet de maison d'hébergement pour les personnes à risque suicidaire verra officiellement le jour. L'organisme finalise présentement les documents du bâtiment locatif où sera situé le projet.
C'est un projet que ça fait à peu près 2 ans que je travaille. Puis là, en décembre 2022, on devrait voir l'ouverture de cette maison-là. 2 chambres, probablement. Au début, on visait 6 chambres à l'ouverture, sauf qu'on n'a pas eu le financement nécessaire avec le CISO. Donc, on a le bâtiment qui est loué. On devrait commencer les rénovations. Donc, d'ici décembre, on devrait pouvoir l'ouverture.
Le but de la directrice est d'offrir un service d'assistance 24/7, mais avec le peu de ressources et le manque de personnel, c'est un projet qu'elle qualifie d'inquiétant. Toutefois, elle se dit déterminée à ce que tout fonctionne comme espéré.
C'est sûr que ça m'inquiète. On connaît le manque de ressources partout, mais en même temps, je suis positive. Je me dis que tout va aller pour le mieux, puis je souhaite vraiment beaucoup. J'essaie de me motiver, j'essaie de voir le positif, puis de me dire on va trouver ce qu'il faut pour pouvoir faire l'ouverture.
D'ailleurs, les bureaux de Suicide des Tours déménageront en entièreté à la maison d'hébergement.
Suicide des Tours va tout déménager à la même place, donc l'organisme va déménager à la maison d'hébergement. Donc toutes les activités vont continuer là. Donc tout ce qu'on fait présentement, on va continuer à le faire, plus l'hébergement 24/7.
L'organisme célébrait dernièrement ses 25 ans d'existence au mois de mai. Toutefois, il n'avait pas eu la chance d'organiser quoi que ce soit afin de le souligner. Un événement pour la cause devrait avoir lieu aux alentours du mois de septembre prochain. Entre-temps, Suicide des Tours tiendra un salon communautaire dans la semaine du 10 septembre.
Marqué par les contraintes sanitaires imposées par la COVID-19, par un déficit de plus de 30 000 $ et le décès d'une fidèle participante, la dernière année n'a pas été de tout repos pour la Maison des jeunes de Gracefield, au contraire.
Félix-Antoine Parent s'est entretenu avec la directrice générale de Jeunesse sans frontières et voici son reportage.
Jeunesse sans frontières a tenu à souligner de belle façon le départ de Chloé Jeté-Francoeur, 16 ans, emportée par la maladie en septembre dernier. Désormais, l'organisme remettra chaque année le prix Chloé Jeté-Francoeur, qui sera remis à la personnalité de l'année chez les adolescents de 12 à 14 ans et de 15 à 17 ans. Mélissa Vachon, directrice générale, a parlé avec émotion de ce moment marquant de l'Assemblée générale annuelle de l'organisme.
L'équipe voulait souligner le passage de Chloé Jeté-Francoeur, qui est une de nos ados qui est décédée à l'automne dernier. Ses parents étaient présents là, à la GEP et ce prix-là il va être remis annuellement. C'était pas mal la définition même de la personnalité de l'année.
Consciente des besoins des jeunes, et ce particulièrement dans le contexte pandémique, la Maison des jeunes de Gracefield tenait à être présente plus que jamais auprès des jeunes de la communauté. Pour ce faire, l'organisme a pu compter sur 4 intervenants qui ont permis de rejoindre davantage d'adolescents que par les années antérieures. Cependant, comme le financement versé à l'organisme ne permet pas d'embaucher autant de ressources, Jeunesse sans frontières s'est retrouvée avec un déficit d'un peu plus de 33 000 $. Comme les administrateurs entretiennent le souhait de poursuivre avec la même offre de services, ils comptent multiplier les représentations auprès du gouvernement et des acteurs locaux afin d'obtenir une bonification du financement. Voici les explications de Mélissa Vachon.
On va vraiment rencontrer les différents paliers gouvernementaux, faire la démonstration que ce qu'on fait, ça change des vies, puis que c'est essentiel dans le milieu de pouvoir les rassembler, les soutenir, puis les réengager dans les activités de façon structurée. Fait que maintenir une équipe plus grande, ça nous a permis de rejoindre des jeunes puis d'aller au-devant de ces jeunes-là. On a été en contact avec des jeunes, on a vu des jeunes. Ça a été payant en termes de rencontre avec des jeunes.
Au courant de la prochaine année, Jeunesse sans frontières poursuivra également les démarches entamées en vue de relocaliser la Maison des jeunes dans un endroit qui répond davantage à ses besoins. C'était Félix-Antoine Parent pour CAGA-FM.
C'est ce qui conclut vos informations locales et régionales de CAGA-FM.